Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Charline, pardon.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je bosse.
Là tu danses.
Je bosse.
Ouais, il est où ton tutu?
Non, c'est malin. On reçoit des danseurs aujourd'hui, et pas n'importe lesquels. Pietragala, Derou.
Attends, parce que dans mon souvenir, elle levait un petit peu plus la jambe, les danseuses.
Oui, mais là je débute. C'est une proposition, je dirais, plus minimaliste.
Alex, Pietra, ses inspirations, c'est plus Caroline Carlson que le French Cancan.
Bah oui, c'est vrai. En plus, elle prépare un classique français en ce moment.
Oui, Lorenza Tcho. Mais leur compagnie s'appelle le Théâtre du Corps. C'est pas la compagnie Tagada de Soin-Toi,
je vois. C'est
un lieu de rencontre entre plusieurs styles de danse. Il y a classique, contemporain, hip-hop.
Ouais, on n'est pas au Moulin Rouge, quoi. Je vais essayer autre chose.
Merci.
Torsion du bras, pliage du corps.
Non, mais Alex.
Avec de l'entraînement, je pense qu'Anne-Thérèse de Kersmaker va m'engager.
Ouais, c'est sûr. Ce travail sur l'inélégance de l'enveloppe corporelle est très abouti, là.
Non, mais ça va, je m'implique, quoi. J'ai que des critiques. Tu sais danser, toi?
Bah, je fais un petit peu de pole dance en ce moment. Je me débrouillais, quoi.
Non, mais c'est pas de la danse, pole dance.
Mais tu sais, Alex, tout est danse. Je veux dire, la vie est danse, le silence est danse, même l'immobilité peut être danse.
Non, arrête, on dirait Edouard Baird.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu choisisses une danse que tu aimes, qui te correspond, quoi.
Ouais, je vois. Alors, je vais faire ça.
C'est la danse des canards.
Pietragala Derouo, là, ne me mets pas. Ça danse bien. Bonjour la France Inter, nous sommes le vendredi 14 décembre 2018. Voilà déjà 39 jours que Carlos Ghosn est prisonnier des Japonais. On t'oublie pas, gros. Et pendant ce temps, elle tourne. Donc, est-il permis de dire du bien des responsables politiques quand on sait que c'est le métier le plus détesté, au même titre que banquier et agent immobilier? C'est un défi de dire du bien. On va essayer de dire du bien de Valérie Pécresse.
Je n'aime pas dire du mal des gens. Mais effectivement, elle est gentille.
Dans notre société qui reste malgré tout encore très sexiste, les garçons doivent encore parfois être encouragés à faire de la danse. Rappelons qu'aujourd'hui, même les garçons qui font de la boxe française portent parfois aussi une sorte de collant.
Je veux pas être déguisé en salope. J'ai pas envie d'être déguisé en salope.
Le rap étant devenu la musique la plus écoutée en France, est-ce pareil dans le milieu de la danse avec le hip-hop? Est-ce que ce genre venu de la rue peut réussir à passer les portes de l'opéra?
Vous avez un site, cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Lui, sous son classicisme apparent, il développe un style urbain. C'est la brève d'actualité de comptoir. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charline Vanhoenacker. Quel lancement. Allez, je vous offre une belle équipe en échange. À 17h20, celle quand on lui parle de pointe, elle pense essentiellement à celle de son tourne-disque vinyle. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Celle quand on lui parle.
Celle qui quand on lui parle. Oui, je l'avais pourtant écrit juste.
Eh bien aujourd'hui, je vous propose un truc classique, mais pas très conservateur. Ça s'appelle Baume. C'est à la limite du blasphème pour la musique classique.
Très bien. À 17h30, celle qui cette semaine nous a envoyé un message pour savoir si Béjart était connu en France.
Bah oui, je savais pas.
C'est à quoi je lui ai fièrement répondu que je connaissais très bien ce grand homme, le général Béjart. Bonjour, Christine Gonzalez.
Bonjour. C'est une star en Suisse. Moi, je sais ça.
Chez nous, figurez-vous.
Mais moi, je le sais maintenant. Mais on va pas entendre parler de Maurice Béjart. Finalement, j'ai changé d'avis.
Ah.
Oui, parce que c'est une période assez tourmentée. Les morts ont des choses très importantes à nous dire aujourd'hui dans ma chronique, n'est-ce pas, sœur Emmanuelle?
Yalla.
ça c'est toujours d'actualité. 17h40, celui qui vraiment danse le flamenco, et c'est pour ça qu'on le surnomme Pablo la Castagnette. C'est vous, Pablo Mira.
Je ne suis pas au courant. Salut Alex, bonjour tout le monde. Alors, avez-vous déjà entendu parler du mouvement des gilets jaunes?
Non.
Eh bien, je vais vous le faire découvrir en exclusivité tout à l'heure.
Et enfin...
France Inter, premier sur l'actu du mois dernier.
Ah oui.
On est bon,
c'est ça.
On est bon.
17h55, il viendra chanter. Celui qui a un déhanché moins proche de Michael Jackson que de Georges Brassens, c'est Frédéric Fromet.
Et voici le duo qui va enchanter notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes
Marie-Claude Pietragala
et Julien Derroux.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
Bienvenue Pietra et Julien, on est très heureux de vous recevoir. Pour Lorenzaccio, d'après l'œuvre d'Alfred de Musset, vous serez notamment à la salle Pleyel du 1er au 10 février et puis ensuite en tournée dans toute la France et en Belgique. On donnera des dates tout au long de cette heure d'émission. Vous avez fondé tous les deux il y a quelques années déjà la compagnie Le Théâtre du Corps et vous proposez ce spectacle Lorenzaccio. Votre art mêle la danse et le texte depuis pas mal de temps. Cette fois, est-ce que vous amenez encore plus de texte dans ce spectacle ? Est-ce que vous vous rapprochez encore davantage du théâtre par rapport à vos précédentes créations ? À quoi ça peut ressembler pour les auditeurs qui ne...
Oui, effectivement. Là, je pense que ça symbolise vraiment notre compagnie, Le Théâtre du Corps. C'est-à-dire que là, on a été inspiré par cette pièce d'Alfred de Musset, Lorenzaccio. Et effectivement, on essaye de trouver, tout au long de ce spectacle, une résonance entre le théâtre, enfin entre le texte et le geste et la danse. Donc c'est un peu inédit, parce qu'effectivement, on a constitué une compagnie, une troupe d'acteurs, de comédiens et de danseurs, ils sont comédiens et danseurs en même temps. Mmh. Et justement, c'est arrivé à ce que l'on puisse être... ces protagonistes, enfin ces comédiens, ces personnages qui jouent le texte de Musset, effectivement, et qui le dansent aussi, et en même temps. Donc ça, c'est une prouesse un peu, un peu inédite. Et effectivement, c'est dans la lignée de notre travail.
Alors comment fait-on, Julien Desrouaux, vous interprétez Lorenzaccio ? Donc, comme le disait Pietra, il faut des danseurs qui soient comédiens ou parfois des comédiens qui soient danseurs. Vous, comment avez-vous travaillé cette qualité de comédien puisque votre formation initiale est en danseur ?
Ça fait quelques années qu'on travaille ce rapport entre le mouvement et la parole. Parce qu'il y avait un précédent spectacle qui était sur la poésie d'Aragon. Là, c'est vrai qu'on arrive sur le théâtre plus classique avec Musset, mais il y a une vraie rythmique dans tout ce texte, il y a une vraie poésie, il y a une vraie musicalité, et ce qui est très excitant pour un danseur, c'est que finalement, on travaille à peu près tout ce qui existe comme ligaments, muscles, n'importe toutes les cellules du corps sont mises en action quand vous dansez, et finalement, la seule chose qu'on n'utilise pas, c'est la voix. Oui. Donc c'est vrai que le fait d'utiliser cette voix quasiment comme aussi... fabriquer sa propre musique, un rythme qui fait que le corps va danser sur vos mots, alors qui ne sont pas les nôtres bien évidemment, mais voilà, ça donne tout un travail très intéressant à faire où souvent ce qu'on dit c'est que du coup la danse devient presque l'inconscient des personnages parce qu'il y a ce que le personnage dit, puis il y a ce que le personnage ne dit pas. Et souvent le corps prend le relais, et on le voit d'ailleurs, il y a un des sujets sur les politiques qu'on va aborder, oui. On voit très bien que souvent des fois quand on coupe le son, on a la sensation que les gens nous mentent en fait à la télé, que le corps se trahit. Et les gens... Souvent, il y a ce décalage. Le corps est très difficile à maîtriser. Il nous représente finalement bien plus qu'on ne le pense.
Ça a tout de suite été une évidence que le danseur allait être l'acteur. Parce que très souvent, dans les mises en scène d'opéra, le personnage est dédoublé. Il y en a un qui danse et l'autre qui livre.
C'était un peu notre enjeu et puis le pari. Effectivement, souvent, on n'a rien inventé. Le théâtre et la danse se côtoient sur scène. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est d'arriver à... on dit souvent avec Julien, c'est d'avoir deux disques durs, c'est-à-dire d'avoir celui qui a le texte, et puis il faut le maîtriser, et puis c'est un texte classique, donc il faut avoir cette exigence. Et puis aussi l'autre disque dur qui est la danse, et d'arriver à imbriquer les deux en même temps. C'est ça qui est très difficile, mais passionnant, très très excitant.
Vous voulez dire qu'il faut synchroniser les deux disques durs,
exactement,
en réalité.
Absolument.
Comment est-ce qu'on synchronise le geste et le texte ? Et est-ce que, j'ai vu que vous aviez travaillé avec Daniel Mesguich pour la dramaturgie, lui, à quel niveau intervient-il ? Est-ce que, essentiellement sur le texte ?
Lui, c'était sur le découpage, comment arriver à ce que... Parce que cette pièce de Lorenzaccio, et si on la mettait vraiment... en scène, il y aurait 5 heures de spectacle, donc il a fallu faire des coupes évidemment, et il y a beaucoup beaucoup de personnages, donc nous on a resserré sur 13 protagonistes, et du coup il nous a évidemment beaucoup aidé sur le fait du redécoupage du texte, mais je dois dire qu'il y a vraiment, parce que souvent les gens pensent que c'est une adaptation en danse de Lorenzaccio, non pas du tout, il y a vraiment 2 heures de texte, et 2 heures de danse, quoi. Il y a, tout est confondu, tout est en résonance l'un avec l'autre.
Quand j'ai vu que vous aviez choisi ce texte-là, ça m'a fait penser à la démarche qu'avait eu Jean Villard à l'époque, de dire, le théâtre, il faut le sortir aussi de l'intelligentsia et les grands classiques sont aussi faits pour le grand public. Est-ce que c'est un peu la démarche que vous avez eue avec la danse ici? De dire, il n'y a pas que...
C'est une démarche qu'on a depuis plus de 20 ans, en fait. Pietra était première danseuse à avoir été à l'Olympia, justement, pour sortir aussi un peu la danse de ces lieux institutionnels. Et c'est vrai que ce qui nous a toujours passionné, c'était d'amener la danse devant des yeux qui la découvraient, en fait. Souvent, on le voit d'ailleurs dans le public. Vous avez parfois des couples qui viennent nous voir et on sent bien que le mari s'est fait un peu traîner, parce que bon, et
il a perdu un pari. Ouais,
exactement. Et finalement, après le spectacle, c'est celui qui nous en parle le plus, qui finalement a découvert quelque chose en disant mais finalement la danse c'est pas chiant, c'est génial, j'ai compris en plus. Donc il y a aussi cette idée de dire vous n'avez pas besoin de savoir comment on monte un film pour aller au cinéma. Donc vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots de la danse pour l'apprécier. C'est quelque chose de sensible. Donc moi je dis souvent que ça parle au cerveau droit, c'est comme la peinture, c'est-à-dire ça marche ou ça marche pas. Après on peut vous expliquer, on peut vous pondre des textes plus ou moins intelligents sur une chorégraphie, mais ça doit marcher, ça doit vous faire vibrer. Et c'est pour ça qu'on s'est toujours dit qu'il fallait que le grand public découvre aussi ça, que ce soit multigénérationnel, que les artistes, le spectacle vivant est là justement pour regrouper dans une salle. Parce que la danse est hors frontière, on est hors du langage. Alors là, on parle de quelque chose parce qu'on a ramené le texte, on a ramené le langage dans la danse. Et justement, ce qui nous passionne, c'est à quel point le corps et son énergie, quelque chose qui est un lien entre les gens. Donc c'est vrai que c'est une démarche qu'on a depuis des années, de sortir la danse des spécialistes. Déjà un, parce qu'en général, ils sont chiants et ils ont un avis très étrange. Mais c'est surtout qu'on a envie d'avoir des yeux neufs qui découvrent aussi cet art magnifique qu'est l'art chorégraphique.
Parce que c'est un art universel quand même.
Bien entendu.
Avant même d'apprendre à parler, on sait bouger. Donc c'est ça qui est génial.
Et vous pourrez le voir dans toute la France. C'est ça aussi l'accessibilité qui est rendue. Il y a notamment, bien sûr, la salle Payel du 1er au 10 février. Et puis vous serez notamment le 15 janvier à Saint-Germain-en-Laye. Vous serez par exemple le 13 mars à Lyon, le 15 à Arcachon, le 20 à Montpellier. Puis en avril aussi, il y a des dates à Lens ou à Chenon. Je vous en donnerai tout à l'heure plusieurs. Et puis vous passez par chez Alex et moi, c'est-à-dire Mons et Liège, les 8 et 9 mars. Voilà. Un gage de qualité également. Voilà comment nous sommes passés de la danse des canards de Gigi Lionel à Alfred de Musset. Je sentis que vous avez eu un peu peur, mais...
Oh, non.
On est ensemble jusqu'à 18h.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'll have Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She is out of sight to me. She's out of sight to me. Tonight.
bah, y avait un disque, c'était oui. The Easy Beat, Friday on My Mind.
L'anglais s'est amélioré depuis la semaine dernière.
Vous écoutez France Inter, nous sommes en compagnie de Pietra et de Julien Desrouaux pour Lorenzaccio, d'après l'œuvre d'Alfred de Musset. Ils seront notamment à la salle Pleyel, mais aussi en tournée dans toute la France. Pour les entourer, Alexis.
Eh bien, sachez qu'il y a Mélanie Bauer, qu'il y a Christine Gonzalez et notre flamenquiste.
Pietro.
Pietro Mira.
Un petit point sur l'information, il s'en est passé des choses.
Ouais. Les Français, il ne faut pas leur faire la leçon. Il faut leur donner des informations, beaucoup d'informations.
Le journal de presque 17h17.
Nous sommes sauvés!
On commence par les titres.
Quelques minutes après l'annonce de la mort de Sherif Shekat, BFM TV a diffusé le morceau I Shot the Sheriff de Bob Marley en fond sonore.
Oui, visiblement chez BFM, ils n'ont pas attendu la légalisation du cannabis thérapeutique pour en fumer de la toute bonne.
Encore plus brillant, oui. CNews a interrogé un témoin qui assurait avoir connu l'auteur de l'attaque et il s'est arrivé que c'était un canular.
Eh oui, mais là vraiment en ce moment on peut se tromper puisqu'il y a un certain Christophe Castaner qui apparemment se fait passer pour un ministre de l'Intérieur.
Et les brèves.
Oui, si les chaînes info se noient, la seule référence en matière d'actu, c'est les brèves.
Concernant l'attaque à Strasbourg, donc Christophe Castaner évoque une revendication totalement opportuniste de l'État islamique.
Eh oui, et en matière d'opportunisme, on peut lui faire confiance à Christophe, il sait ce que c'est.
Et venons donc par la tentative de blagounette de BFM TV.
Eh oui, c'était donc en direct, les analystes parlent comme ça sérieusement de l'arrestation et mine de rien en fond sonore.
Je disais Rimbé à l'instant, la dame qui l'a signalé aux autorités a constaté qu'il était blessé, donc c'est peut-être cette blessure qui devenait...
C'est amusant. Et là on se dit, heureusement qu'il s'appelait pas Basile. Oui, et là, la dame qui l'a dénoncé aux autorités.
Oui, alors passons plutôt à CNews.
À CNews,
alors.
C'était beaucoup mieux. Hein. Donc la veille, avec le flair habituel, ils ont dégoté un connaisseur. Il connaissait bien l'assaillant, et donc il était capable de nous en faire un portrait très précis.
Il était super gentil. C'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes, ou quelqu'un super gentil et discret surtout. Ouais. Ça avait pas l'air d'être quelqu'un de borné ou...
Voilà, déjà c'était important de bien avoir ce portrait très exigeant, de tout savoir. Et quelques instants plus tard, ce jeune homme a fait un petit Snapchat pour nous dire
ah, je suis vraiment passé à la télé. Mais je le connais même pas le gars, je sais pas c'est qui. Voilà, je le connais même pas.
Et vive le journalisme.
Alors sur LCI, en revanche, on invite des professionnels.
Nadine Morano était là par téléphone.
Ah, voilà.
Et est-ce qu'elle a pas eu la bonne idée?
Il faut frapper très fort. Il faut interdire tout ce qui est la radicalisation.
Il faut interdire la radicalisation. Et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé à ça. Je pense qu'on pourrait également bannir tout ce qui est meurtre et vraiment être extrêmement ferme avec tout ce qui est terrorisme.
People toujours,
oui.
Puisqu'on vient de parler de Nadine.
Voilà,
Bouba
a annoncé qu'il offrait 20 000 euros à la personne qui retrouvera son ordinateur volé dans un cambriolage à son domicile dimanche soir.
La raison, celui-ci contiendrait des pistes du prochain projet du rappeur, un triple album.
Eh oui, et moi donc je lance une cagnotte litchi. Et si on a 30 000 euros, je les offre aux malfaiteurs pour qu'ils ne ramènent pas l'ordinateur. Comme ça, on est sûr.
Sport, hier, vous annonçait que grâce au report de leur match qui était prévu dimanche face à Bordeaux, les Marseillais allaient boucler 2 semaines sans défaite.
Mais malheureusement, l'OM, hier soir, a perdu 3-1 au Vélodrome face à la puissante équipe B de l'Apollon Limassol des Chypriotes. Les joueurs ont donc décidé de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Hein, leur objectif est clair, faire durer le mouvement pour qu'ils ne le disputent plus un seul match d'ici la fin de l'année.
Et les brèves.
Des brèves poker cette semaine. Deux religieuses ont tapé dans la caisse de l'école catholique aux États-Unis pour aller jouer à Las Vegas, au poker en plus, ce qui se rapproche de la religion puisque les deux démarrent sur un coup de bluff.
Et la dernière,
héros, la soirée poker en famille, dégénère, il poignarde son frère dans le dos et là on se demandait à quoi ils jouaient, les républicains, et bien apparemment c'est au poker.
Merci Alex.
De rien Charline.
Toujours en compagnie du duo Pietra Desrouaux qu'on peut voir sur scène avec le Lorenzaccio d'après l'œuvre d'Alfred de Musset. On va aborder avec vous ce premier sujet qu'on a commencé un petit peu à évoquer. Ce sont les responsables politiques qui sont devenus tellement impopulaires qu'on en vient à se demander s'il est admis de pouvoir en dire du bien. On vient d'avoir un bel exemple, enfin plusieurs beaux exemples. De qui, duquel d'abord pourrait-on dire du bien? Vous n'avez qu'à tenter le cours, pas de Noël, vous nous en direz des nouvelles. Alors, à moins de diriger une institution ou de dépendre de subventions, auquel cas il faut faire un petit peu de lèche, ça semble difficile.
À mon signal, vous allez prendre la parole et là vous dites « J'aimerais remercier quelqu'un dont l'importance était capitale pour la mise en place et la réussite de cette soirée. Un homme sans qui ce soir rien n'aurait été possible. » Vous voyez le genre?
Absolument, oui.
Ok, je vous laisse broder.
D'accord.
Hein, mais pas trop?
Non.
Oula.
Non.
Ouais.
Non.
Donc je reprends?
Oui.
Peut-être avec moi? Là, vous dites que tout ça, c'est grâce à Pierre.
Passe à Pierre.
Très bien.
Il faudra me montrer qui est Pierre, sinon je...
C'est moi. C'est un extrait du film Le sens de la fête d'Olivier Nakache et Éric Toledano. C'est une question posée dans le billet politique de Frédéric Seize, notre confrère sur France Culture. Est-il admis de dire du bien des politiques aujourd'hui? Alors, on vous pose la question, est-ce que c'est difficile de le faire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ne fût-ce qu'une fois, dans la vie?
Il se regarde. Qui va se sacrifier pour
peut lancer une pub à n'importe quel moment.
Ça dépend avec qui, en effet, avec qui vous discutez, en effet. Mais je pense que c'est admis de dire du bien. Je pense qu'il y a des politiques aujourd'hui, on le voit, par exemple, le relais que sont les maires aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a quand même les politiques, en fait, je crois que les gens, leur majorité, aiment ceux qui déjà retournent pas leur veste. Donc ça en enlève certains. Et puis qui ont peut-être cette sensation qui, voilà, que c'est pas un sacerdoce, mais qu'il y a une vraie mission de service public, il y a quelque chose de l'intérêt général. Je crois que ça touche quand même les gens quand les politiques sont à ce service-là. On a malheureusement aussi des exemples de gens quand même où on sent bien qu'il y a derrière quand même de un peu de carriérisme, donc on sent bien qu'un François Durugy nous fait pas rêver, quoi, tu vois. Un Éric Besson non plus, quoi. Il y a des exemples comme ça, il pourrait jouer d'ailleurs. C'est un peu des Iago dans certaines
Exactement.
Pièces. Donc d'ailleurs, on peut s'inspirer souvent, nous, dans Lorenzaccio, il y a des personnages. Par exemple, le drame fait que quand le duc est mort, en fait, il en repousse un autre. Et on va chercher son cousin, comme de Médicis, qui fait que le vrai drame de cette pièce, c'est pas tant d'avoir tué le duc, c'est qu'en fait, la société se renouvelle
Change
et
pas.
Qu'il n'y a aucun changement. le pouvoir reste au puissant.
C'est vrai
puissant.
Que ça reste une pièce politique aussi.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein d'exemples. On parle souvent avec nos artistes de ça, sur des exemples politiques. Alors là, en l'occurrence, on parlait de choses... pas très positive, mais je pense qu'il y a des hommes politiques, on le voit, on l'a vu récemment avec la disparition d'une Simone Veil, par exemple, on sent bien qu'il y a des gens quand même...
C'est toujours l'exemple qu'on ressort.
Mais il n'y a pas que, je veux dire, quand on voit le parcours de l'inventeur de la sécurité sociale, je veux dire, ce parcours d'ailleurs, qui est un parcours atypique qu'on aimerait revoir aujourd'hui, puisque justement, quelqu'un qui n'est pas issu du Cénacle, qui a un parcours syndicaliste, ouvrier, enfin je veux dire, qui est
d'un autre... qui était ministre
ça,
du Travail communiste.
C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc, il y a quand même des exemples de gens qui ont fait des choses, qui ont fait des lois, qui ont fait avancer, notre société. Donc non, je pense qu'on peut dire du bien. Après, les êtres humains sont complexes, donc on peut faire aussi des fois des choses étranges, et puis inversement faire des bonnes choses. Vous savez, rien n'est tranché.
Non, il y a juste un point là que vous avez soulevé qui est pas inintéressant, c'est l'aspect local. On reprend l'exemple des Gilets jaunes. Il y a pas mal de députés ou secrétaires d'État qui se sont fait sortir de ronds-points, de parkings là où il y avait des mobilisations. Et les seuls représentants qui avaient encore la légitimité pour ne pas se faire sortir par les manifestants, c'était justement les maires, les adjoints aux maires. Donc les gens ont encore un peu foi.
Proche. Ce qu'on appelle le circuit court, hein, en général.
Ouais, c'est un peu ça l'idée.
Pietra, vous qui avez dirigé les Baleines de Marseille, Jean-Claude Gaudin, vous avez dû le croiser, j'imagine.
Alors là, vous me lancez sur un sujet.
Elle est dite du bien de Jean-Claude.
On peut pas juger,
un peu.
On peut passer à la question suivante.
Difficile. Non. Bah, c'est le problème de. Ouais. Quand on dirige des institutions, même culturelles, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail politique énorme, même politique, mais qui est pas notre fonction première. Quoi. Nous, on est là pour créer, faire des spectacles, et c'est vrai. Alors, en plus, vous prenez l'exemple de Marseille où. Personne, on n'y retrouve pas ses petits. À Marseille, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'adore les Marseillais. J'ai plein d'amis. D'ailleurs, je salue Richard Martin, qui est le directeur du Tourski, qui a un parcours incroyable. Mais c'est vrai que les politiques là-bas, c'est très, très compliqué. Ouais. Et on vous fait bien comprendre, en plus, que vous êtes une femme. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est pas évident quand vous avez une fonction un peu importante. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
Surtout de votre carrière, vous avez dû voir défiler pas mal de ministres de la culture.
Oui.
Est-ce que là aussi, il y en a...
C'est pas gentil de dire ça.
Non, mais parce qu'ils changent souvent.
C'est vrai qu'ils changent souvent.
Donc, est-ce qu'il y en a de qui vous auriez eu envie de dire du bien et d'autres dont peut-être vous avez eu envie de dire du mal, mais vous l'avez pas dit?
On mettra
des noms.
Non,
mais c'est-à-dire qu'il y en a, j'ai pas eu de contact avec eux, ou qui semblent être très très loin du spectacle vivant, qui sont un peu inexistants dans notre partie. Après, c'est vrai qu'on a des gens, enfin des ministres comme ça, symboliques, qui sont langues. Frédéric Mitterrand, avec qui j'ai eu un très bon contact, Denis de Devabre, même François Léotard, mais. Voilà, après c'est selon les rencontres qu'on fait, s'ils acceptent de vous parler ou pas, parce qu'il y en a d'autres qui vous
que vous sollicitez et qui savent même pas qui vous êtes et
qui, ça lui flirte
voilà, ça dépend des sensibilités oui, voilà en effet
et puis nous on a vécu j'allais dire depuis quelques années sur le fait que le ministre de la Culture, d'une certaine manière, aujourd'hui, a perdu beaucoup de pouvoir, en fait. C'est un peu un poste qui, des fois, soit permet de faire la parité quand on sait plus trop bien qui placer. Et, en fait, moi, j'ai même une anecdote de quelqu'un de très haut placé, dont je citerai pas le nom, mais très haut placé dans l'administration culturelle, qui m'a dit un jour, vous fâchez pas avec moi. Un ministre, ça part tous les deux ans. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. Donc, le pouvoir, c'est moi qui l'ai. Mais cache.
Et vous n'êtes pas fâché.
Les yeux dans les yeux. Non, mais moi, c'est ce genre de réflexion où, bref, j'ai gardé mon sang-froid. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, en l'occurrence, il y a plus de vision sur la culture depuis très longtemps. Mmh. Et que c'est vrai que, bon, voilà, le ministre, c'est parfois compliqué de mettre en place quoi que ce soit. On l'a bien vu sur notre dernière ministre et on espère que le nouveau va faire quelque chose, mais je pense que si le président n'a pas une vision culturelle, un ministre de la Culture, ça sert à pas grand chose à mon avis.
Vous la rendez vivace, vous, Pietra, Julien Desrouaux, avec Lorenza Chio, notamment. On va passer à Mélanie Bauer avant de reparler de danse avec vous deux.
Après ce grand moment positif sur la politique, on a dit beaucoup de bien et ça fait plaisir. Alors, en cas de catastrophe naturelle ou bien de simple abandon de toute une partie de la population française à la misère, dans ces cas-là, en général, pour réunir des fonds, on se tape des compilations d'artistes de variétés divers pour des chansons à varier. Et bien là, avec Boom, c'est tout le contraire. À part le concept de réunion, il devrait y avoir de la musique sous mon... Ah, voilà. Avec Boom, c'est tout le contraire. À part le concept de réunion autour d'une ambition de cœur, d'élévation face à la souffrance, ici, culturelle, nous sommes avec ce disque Boom, ici-bas, les mélodies de Gabriel Fauré, plutôt dans le caritatif de la beauté. Ce double album réunit les plus grands chanteurs, à mon humble avis, jazz, rock, chanson, autour de textes de nos plus grands poètes sur des mélodies du compositeur français à la très belle moustache, Gabriel Fauré. Alors vous me direz, ça ne fait pas bouffer, ça ne répare pas des sinistres. Non, c'est vrai, mais ça nous rappelle que nous sommes un pays romantique, délicat, et en ces temps de brutalité systémique, ça soigne de l'intérieur.
Je veux que le matin l'ignore, le nom que j'ai dit à la nuit, et qu'au vent de l'aube s'embrouille.
Car on ne fait pas un tel disque pour l'argent, vous en doutez bien, preuve en est l'impressionnante liste des intervenants qui, s'ils étaient payés à la hauteur de leur talent, équivaudraient à eux seuls au PIB de la Belgique. Je lance Name Dropping, Dominica, Janadid, Babix, Camille, Élise Caron, Judith Chemla, Hugh Coltman, Étienne Dao, John Greaves, Pete Facchini, Philippe Catherine, Kairi, Chris Manson, J.P. Nataf, Sandra Nkake, Imiko Paganotti, Brendan Perry, Thomas de Pourquerie, Albin de la Simone et Rosemary Stanley.
La playlist France Inter, quoi.
Tous sur un même disque. Il faut dire qu'Olivier Mélano, à l'origine de ce grand projet, n'est pas n'importe qui. Il est le violoniste du rock des 90s, compositeur pour la danse, le théâtre, le cinéma, un homme aux mille talents de l'ombre. Il s'attaque à Gabriel Fauré. Fauré, c'est notre Beethoven à nous. Lui aussi, il était sourd à la fin de sa carrière. Et il continuait à composer. Il meurt en 1924. Son Requiem est d'ailleurs mille fois aussi beau que celui de Mozart. Bref, c'était pas n'importe qui Fauré. Puis le titre du disque, Baum, ça veut dire arbre en allemand. Ce sont des racines profondément ancrées dans notre inconscient, une communication lente et silencieuse entre les siècles qui s'en mêlent entre la fin du 19e, les débuts du 20e et notre balbutiant 21e, avec en tronc commun le spleen, ce vague à l'âme bien de chez nous. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville quand quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur, écrivait Verlaine en 1874.
Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la
sont donc Olivier Mélano, Simon Dalmet au piano, Anne Gouverneur au violon et Maëva Lebert au violoncelle. Et puis ces voix que l'on pensait légères, qui nous prouvent, si l'on ne le savait pas, qu'elles ont du bagage, de la profondeur, une capacité au classique dans cette ici-bas, sur ces mélodies pour voix et piano de Fauré, écrites pour la plupart à la fin du 19e siècle. Se jouent ici de tendres écrins pour les poèmes de Sully Prudhomme, Paul Verlaine, Armand Sylvestre ou encore Théophile Gautier. Un disque qui soigne de tous les spams, de toutes les publicités, de tous les plateaux télé avec des gens qui applaudissent, de toute la grossièreté du monde. Demain, sortie du disque avec une projection du film à la Maison de la Poésie à Paris et toujours pour les Parisiens le 6 février avec tous les chanteurs, ça se passera au 104.
Wow. Merci beaucoup Mélanie Bauer pour cette belle découverte qui a ravi nos oreilles ainsi que celle de Pietra et Julien Desrouaux qui viennent nous parler de ce grand spectacle Lorenzaccio qui est en tournée dans toute la France de Cannes à Roubaix dès le mois de janvier, c'est vrai, qui passe par la salle Playel. On va y revenir, on va revenir à la danse avec vous. En attendant, nous allons écouter celle qui nous vient de Suisse, Christine Gonzalez.
C'est une période compliquée pour nous les vivants et je crois qu'il faut dans tout ce bazar ne pas oublier la parole des disparus. Je vous propose de les écouter en vrac. Ils ont des choses à nous dire. Simone Veil.
Les Français sont très individualistes, très anarchisants, ils ne sont jamais contents, ils rouspètent. C'est une force. Et puis je crois alors qu'un des rôles des pouvoirs publics, c'est justement d'essayer de donner, non pas de limiter les chances des uns, mais d'essayer de donner à tous le maximum de chances.
L'abbé Pierre.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
Coluche.
Je veux dire, on est arrivé à un point extraordinaire. On est arrivé à un point aujourd'hui où la guerre a jamais été aussi démodée qu'avant. Et puis, elle est partout. Et plus ça va, plus elle est meurtrière. Alors il y a une contradiction qui est quand même marrante. C'est quand même énorme. C'est ça le problème.
Jean-Paul Sartre.
Je ne vois pas pourquoi la société d'aujourd'hui devrait rester comme ça. Parce que je suis contre cette société-là et que je la conteste.
Jean Ferrat.
Nous sommes dans ce système que je trouve tout à fait dégueulasse. Je crois que ça n'est que dans le choc, les opinions contraires, que une sorte de vérité peut apparaître.
Georges Marchais.
Nous ne nous cachons pas que la tâche sera difficile, mais nous avons la conviction profonde que les moyens existent de changer les choses. à condition de le vouloir, d'avoir la volonté de le faire.
Marguerite Duras.
C'est beaucoup plus difficile de se défaire, de se débarrasser, de sauter, n'est-ce pas, de s'arracher de soi, que de lancer un pavé dans une vitrine.
André Breton.
On voit bien ce qu'on est devenu, mais ce qui reste toujours, la lumière et le monde intérieur.
Joséphine Baker.
Si on veut, on n'est pas besoin de se tuer ou entretuer. Non, on peut s'aimer si on veut bien.
René Char.
La liberté protège le silence, la parole et l'amour. La liberté, c'est de dire la vérité avec des précautions terribles sur la route où tout se trouve.
John Lennon.
Peace in your mind, peace on earth, peace at work, peace at home, peace in the world.
Jacques Brel.
Je sais que dans la vie, ce qui est formidable, c'est l'acte de vivre. Et je ne sais vraiment rien d'autre.
Romy Schneider.
Il faut en profiter, le présent, chaque instant, tout, les petites choses, les choses de la vie.
Et Sœur Emmanuelle.
Tout se résume en trois mots. Il suffit d'aimer.
Merci Christine Gonzalez. Ouais.
Plus personne ne parle là. Ouais.
C'est là qu'on se rend compte que la sagesse est un petit peu là-haut,
au-delà de nous,
et que c'est très très bon de les réentendre. Merci beaucoup pour ce beau moment, Christine Gonzalez. Voilà, elle est là, la trêve, l'union, finalement, grâce au son de nos disparus. Toujours avec Pietra et Julien Derouault, spectacle bien vivant, Lorenzaccio, dans toute la France. Et reparlons justement de danse, car un article est paru récemment dans Marie Claire, il nous a interpellés. Il est intitulé « Et si on laissait les petits garçons faire de la danse en paix ?» Donc on s'est dit « Mais on en est encore là aujourd'hui ?» En mode « Me too, je veux être danseur », et cela bien sûr à tout âge.
Dis donc, le cours de danse sur la place des Lys, là, qu'est-ce que c'est? C'est bien?
Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi?
T'as pourquoi? Pas pour rire, c'est fini.
J'ai l'intention d'apprendre à danser.
Non, mais puis quoi encore? De l'horreur. Quoi alors?
Gendarme son mari, film de Jean Giraud, c'est des références bien sûr. Alors on a vu ce titre, Pietra, Julien Derouault, si on laissait les petits garçons faire de la danse en paix. Vous qui avez en plus ouvert une école, si je ne me trompe, oui. L'école du théâtre du corps. Oui. Alors aujourd'hui, l'état des lieux de cette question, c'est quoi? On voit quand même plus de garçons.
Bah, oui, moi je suis un peu surpris encore, je suis un peu comme vous, je suis surpris de notre époque qu'on se pose encore la question que les hommes puissent faire de la danse, hein, les petits garçons. Surtout qu'on a quand même... au XXe siècle, eu des grands artistes emblématiques comme Nourieff ou comme Maurice Béjart, qui ont remis la danse masculine sur un piédestal, enfin, qui l'ont sacralisé. Mm-hmm. Donc, je suis étonnée, mais bon, peut-être qu'il y a encore certains préjugés, justement, sur et c'est vrai aussi que pour, on va dire, 30 petites filles dans un cours, il y a peut-être un ou deux garçons. Donc, il y a peut-être encore un travail. Ceci dit, les danses urbaines, enfin le hip-hop a quand même développé aussi cette danse masculine et
qui justement est beaucoup plus masculine que féminine finalement peut-être le hip-hop.
Il y a beaucoup de filles qui en font aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est on se pose encore la question de savoir voilà pourquoi il y a aussi peu de encore de garçons, ouais. Parce que je pense que
c'est voilà, pas l'école. Chacun a sa place. Souvent, quand j'étais, on allait à la gymnastique de manière séparée, et nous faisait faire du foot, et les filles, une fois sur deux, elles pouvaient faire de la danse. Et en fait, si on nous obligeait à faire un peu de danse, peut-être on découvrirait qu'on aime ça.
Est-ce que ce serait une solution, Julien Derouault? La danse à l'école pour tout le monde, en fait.
Ça, oui, j'en suis persuadé. Je pense que déjà, au-delà même du fait de développer, c'est comme la musique pour moi. Je pense que le fait que les gamins jeunes sur le parcours de primaire, par exemple, puissent avoir un rapport au corps, qui soit en plus un rapport au corps comme le sport. Alors, j'ai rien contre le sport dans ce que je vais dire, mais il y a un rapport de compétition. Faut être le premier à avoir passé la ligne, faut avoir battu son voisin.
Alors qu'en danse, pas du tout.
Alors qu'en danse, non, pas du tout.
Parce qu'il y a une émission sur TF1 où on donne des notes. Je sais pas si vous avez déjà vu ça.
Oui. Non, mais dans la pratique, ce qui est intéressant, justement, c'est d'essayer de se dépasser, d'essayer de comprendre justement comment le corps fonctionne. Et puis surtout quand il y a moi qui ai donné beaucoup d'ateliers, même justement dans des collèges, etc., ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a un imaginaire à travers le corps. C'est-à-dire que tout d'un coup vous lancez un thème, vous allez envoyer des mômes, vous dire bon bah alors voilà, on va travailler une sorte d'improvisation qui va passer de la douceur à la violence. Comment tu gères ça avec ton corps? Comment tu m'inventes sur de la musique quelque chose de très doux qui va se transformer dans quelque chose de très violent, ou l'inverse. Et donc à travers ça, les mômes comprennent que finalement, ils ont à élaborer un langage gestuel qui doit être en rapport justement avec ce genre de thème. Et en général, la réaction est très intéressante parce que ça devient une recherche très intérieure. Alors des fois, on peut faire ça à 2, à 3, à 15 même, on peut faire des choses très collectives, ouais. Mais ça crée un lien qui n'est pas la même chose.
Et puis ça dépend aussi la façon dont on enseigne la danse aussi. Alors là, je pense qu'il y a plus de connotations sur la danse classique, je pense, par rapport à l'article que vous citez.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et c'est vrai que bon, moi, mon expérience à l'Opéra de Paris, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de petites filles qui se présentaient que de garçons. Et après, de mémoire, il y avait autant de garçons que de filles dans les classes, aussi bien les petits rats qu'après dans les classes que dans le corps de ballet. Donc, je pense que c'est faut aller au-delà des préjugés. Je pense que c'est plus un travail que doivent faire les parents là-dessus, parce que les enfants, je pense qu'ils sont, ils ont envie, ils sont émerveillés.
Et je pense que si les garçons voient Julien Derouin dans le Renzaccio, ça donne aussi envie. Vous avez, comme vous voulez aussi, vous populariser la danse, qui a un spectacle incroyable et qui les textes, etc. Vous avez aussi ce côté un peu, faut pouvoir s'identifier.
J'espère. Moi, je sais que gamin, j'avais tous ces posters aussi, forcément. Puis, après, parler de Nureyev ou d'un Baryshnikov, par exemple, moi, c'était des gens qui étaient mes héros, quoi, qui étaient mes zizous à moi. Il fallait que quand tu regardais des vidéos, parce qu'à l'époque, c'était des VHS qui passaient sous le manteau, parce qu'il y a eu aussi très peu de danse. Enfin, je veux dire, là, on parlait des médias, mais c'était faisait aussi partie de la démarche de Pietra, d'ailleurs, d'aller dans ce genre d'émission, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, ça parle rarement de danse, et on ne sait pas comment
l'exprimer aussi.
Donc c'est vrai que tout d'un coup, le fait de pouvoir s'identifier, mais même un Michael Jackson a fait un boulot monstrueux pour la danse. Tout le monde a eu envie de bouger comme lui, moi le premier. Quand il arrive, qu'il met son gant, la musique part, on a tous envie de savoir bouger comme ça. Fred Astaire est extraordinaire.
Quand on voit Alex, on continue la boxe.
Avec nous, Julien Derouault. Et lui, il fait du flamenco, et dans vos cours, vous êtes...
Médium, débutant, catégorie enfant qui a des problèmes.
Car il est 17h48, l'heure de passer la parole à celui qui est notre cadeau de Noël, qu'on aimerait bien revendre sur le Bon Coin.
C'est vous, Pablo Mira.
Pablo, vous revenez aujourd'hui sur ce mouvement des Gilets jaunes qui dure depuis bientôt un mois déjà.
Oui, Sherline, ce mouvement a pris le chemin totalement inverse des rapports sexuels d'Alex Vizorek. Il s'inscrit dans la durée, visiblement. Mais moi, je le dis, je demande officiellement aujourd'hui à ce qu'il s'arrête, ce mouvement, car personne n'a envie de revivre le cauchemar de lundi dernier, puis de voir Emmanuel Macron jouer comme un élève débutant du cours Florent en prenant une voix douce de pédophile qui essaye d'attirer un enfant dans son van. Plus jamais. D'autant plus qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, les gilets jaunes, bon sang, dès le 1er janvier 2019. Donc, un smicard aura 100 € de plus dans la poche de son découvert. C'est énorme. En plus de ça, Macron, il faut le dire, je fais un petit listing, il a défiscalisé donc les heures supplémentaires, il a supprimé la CSG pour de nombreux retraités. Non, franchement, il est temps que les pauvres retournent d'où ils viennent, en Pauvritanie. Mais non, au lieu de ça, ils en demandent toujours plus. Notamment la destitution d'Emmanuel Macron, ce qui serait au passage une catastrophe totale pour le pays. Parce que s'il s'en va, eh bien c'est Gérard Larcher qui le remplace. Et là, il faudra pas râler quand on vous annoncera une hausse de 1000% de la CSG pour couvrir ses besoins en cerveau-là. En plus, la période, il faut le dire, est très mal choisi. On approche des fêtes de Noël, donc il est temps de laisser de côté les tensions sociales pour mieux se retrouver tous ensemble autour des tensions familiales. Et puis, surtout, plus important, demain, c'est l'élection de Miss France 2019. Et la seule chose, je suis désolé, mais la seule chose de cramé que le pays a envie de voir, c'est pas des voitures de luxe sur les Champs-Élysées, c'est la peau de Jean-Pierre Foucault après 72 heures dans un point soleil. Sans même parler du fait, évidemment... Pardon, excusez-moi, c'est mon alerte Franck Dubosc, c'est pour lui rappeler de changer d'avis sur les gilets jaunes toutes les 2 heures. Franck, si tu m'écoutes, maintenant tu es contre, les jours pairs, tu es contre à cette heure-ci. Excusez-moi Charline, je vous disais quoi? Oui, pardon, les gilets jaunes, on va jamais s'en sortir avec ces vampires sociaux qui veulent pomper tout notre PIB, des vampires qui cassent tout en plus. Oui, je le dis, moi j'ai peur de revoir des images comme celle de l'Arc de Triomphe il y a 2 semaines, ou à Bordeaux, samedi dernier. Et le chaos et l'anarchie n'ont pas leur place dans nos rues, mais uniquement dans la mâchoire de Didier Deschamps. Mais ma plus grande crainte, Ma plus grande crainte quand on voit l'état de fatigue des forces de l'ordre, c'est qu'on se dirige vers une catastrophe. Alors vous allez me dire que je suis un peu bisounours peut-être, mais moi je trouverais ça beau que les gilets jaunes, en solidarité avec la police, eh bien les soulagent un peu dans leurs obligations et puis s'occupent eux-mêmes de la violence policière envers les journalistes. Ce serait sympathique. Le temps n'est donc plus aux manifestations, mais comme l'a dit Christine, à la construction d'un avenir commun. Navire, avenir, jeu de mots magnifique. Il faut maintenant que les corps intermédiaires fassent leur boulot, partis politiques, syndicats, il faut que toutes ces personnes aillent voir les gilets jaunes et qu'ils remplissent leur rôle en leur expliquant qu'ils ne peuvent rien faire pour eux, évidemment. C'est pourquoi ce sera ma conclusion. Je demande à tous les gilets jaunes de quitter les lieux dans lesquels ils sont ancrés fermement, que ce soit dans les ronds-points ou dans le mépris de Jean-Michel Apathy. Je leur demande de cesser tout blocage et de discuter avec le gouvernement, car aujourd'hui, la balle de flashball n'est plus uniquement dans leur rotule ou leur visage, la balle est aussi dans leur camp. Allez, salut.
Merci beaucoup, Pablo Mira. Pablo qui est toujours au théâtre.
Théâtre Trévise, lundi, mardi, et on réattaque les mardis, samedi au Trévise à partir de la rentrée.
Ah bah ça donne bien envie. Succès. Merci, Pablo. Allez, on est toujours avec Pietra et Derouot, le fameux duo, et on va parler avec vous de rap, étant devenu la musique la plus écoutée de France, si je ne m'abuse, diffusée, vendue, etc. On se demandait si le corollaire existait pour la danse avec le hip-hop, qui est entré déjà à l'Opéra Comédie de Montpellier, par exemple. Peut-il franchir les portes des temples du classicisme ?
Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ton histoire de tutu prune, là ?
Moi, de toute façon, je voulais faire du hip-hop cette année. Mais avec vous...
Du quoi ?
Du hip-hop. Ça se danse sur du rap.
Sur du rap ? Enfin, ça existe, ça ? Mais Charlotte, tu déraisonnes ou quoi ? Du rap. Mais vous voyez pas des cours de verlan ou des stages de graffiti pendant qu'on y est ? Le rap, mais c'est même pas de la musique, ma chérie.
Laisse tomber, papa.
Bah, je suis désolé, ma chérie, mais je te préfère largement en tutu violine sur du Chopin.
Voilà, c'est votre cause dose quotidienne de Fais pas ci, fais pas ça, une série qu'on aime beaucoup sur France 2. Alors, votre compagnie, elle a très tôt intégré vos spectacles, très tôt intégré le hip-hop. Est-ce que c'est un phénomène un peu parallèle au succès du rap ? Il y a une montée en puissance ? Vous étiez là très tôt, parce que vous aimez un peu blasphémer le classique. Mais il y a une montée
non,
en puissance.
Parce que c'est complémentaire, parce que c'est une richesse, justement. On parle de la danse, mais dans sa pluralité, dans sa diversité. Et puis surtout que nous, en tant que chorégraphes, créateurs, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des techniques qui sont comme des outils, c'est-à-dire la technique classique, le contemporain, on parlait du flamenco, buto, le hip-hop. En fin de compte, c'est des techniques qui nous permettent de traiter des émotions, de traiter du vivant, de traiter de l'humain. Donc c'est surtout ça, c'est pas... et je trouve que c'est des richesses. Il faut pas les opposer les unes aux autres. Il y a eu un moment où on opposait le classique avec le contemporain. Enfin, ça me semblait complètement idiot parce qu'au contraire, c'était complémentaire. Puis même, c'est une autre vision de la danse. Donc le hip-hop, oui, effectivement, ça a pris un essor incroyable. C'est une des pratiques amateurs les plus répandues maintenant dans la danse. Mm-hmm. Bon, le classique aussi, le reste, parce que... Il y a quand même énormément de demandes pour des petites filles, mais même des petits garçons qui veulent faire de la danse classique. Mais le hip-hop, effectivement, c'est un courant. En plus, moi, on a une grand respect parce que c'est très, très proche de la danse classique. Il y a une rigueur dans le travail. C'est vraiment une technique très, très développée et qui demande beaucoup, beaucoup de travail.
Et vous dites, Julien, un rapport au sol proche de l'énergie hip-hop. Quel rapport vous avez au sol, Julien Derouot, pour être hip-hop?
Je sais pas, ça doit être peut-être via quelques chutes que je... J'aime faire. Oui. Chaque fois, on se demande si ma rotule va se remonter, revenir dans mon genou. Non. Ce que dit Pietra, elle a raison. Enfin, nous, ce qui nous a attirés dans les artistes de hip-hop qu'on a pu engager dans certains de nos spectacles, c'est que j'ai une admiration pour leur travail parce qu'en plus, c'est des gens qui se structurent par eux-mêmes. Donc, en plus, il y a un vrai état d'esprit, c'est-à-dire que c'est pas qu'une technique de danse, il y a un état d'esprit autour, même ce qu'on peut appeler, même autour de ce qu'on connaît beaucoup, les battles, etc. En fait, c'est quelque chose de vraiment, il y a un truc très, pour moi, très chamanique, c'est-à-dire tout le monde vient justement dans le respect de la danse de l'autre, de la différence de l'autre, c'est quelque chose, il y a un vrai état d'esprit qui est fort, qui fait avancer ces artistes et qui sont incroyables. Il y a des danseurs qui sont aujourd'hui, qui pour moi sont, c'est vraiment la danse de demain, au-delà de l'étiquette technique. Pietra a raison, en fait. C'est qu'est-ce que tu as à raconter avec ta danse? C'est ce qu'on répète souvent à nos artistes, en fait. C'est qu'est-ce que tu racontes avec ta danse, quelle qu'elle soit, en fait. C'est-à-dire que c'est là où un Joaquim Cortés, ou tout d'un coup un Nureyev, ou un Jackson, ou un grand danseur de hip-hop, finalement, disent la même chose avec une technique différente, mais là où ils nous éblouissent, c'est leur humanité, en fait. C'est ce qu'ils font avec ces pas-là.
Julien Desrouaux. Derrière vous, alors les deux, là, Pietra, Julien.
Il y a un grand danseur. Bonsoir. Et il fait surtout danser ses cordes de guitare. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, tâchons de voir le bon côté des choses. Il y a eu une conséquence positive à la fusillade à Strasbourg. L'annulation du concert de Christine and the Queens. Chris devait jouer à Strasbourg. Mais un mec plus con qu'un topinambour a semé l'horreur au marché. Alors Chris a dû annuler. Elle a pas chanté du tout. Et ça fait du bien. Pas chanté du tout. Pitié pour les Alsaciens. Pas chanté du tout. Pas danser comme un grippin. Pas chanter du tout. Ça donne des idées pour demain. Mon message s'adresse aux débiles. Vous les terroristes, rendez-vous utile. En annulant sans faire de bobos tous les concerts d'Eddie de Préto. Qu'il ne chante pas du tout. Lui est aussi Vianney. Qu'il ne chante pas du tout. Et aussi Benjamin Biolay. Pas chanté du tout. Suis-je radicalisé? Non, pas du tout. C'est juste qu'on les entend assez sur les ondes de France Inter. Dans les pénibles, y a de quoi faire. On passe du Jean-Louis Murat. On a même passé du Booba. Ça ne tient pas debout. Quand liberté on les laisse, ça ne tient pas debout. Faudrait au moins les ficher S. Ça ne tient pas debout. Ça donne envie d'être sourd. Ça ne tient pas debout. Et puis voilà Strasbourg. Le timing c'est tellement gros. C'est évident que c'est un complot. Si le mec avait eu quelque chose dans le crâne, il aurait fait taire Francis Lalanne. Ça ne tient pas debout. Allah, Jésus, où y avait. Ça ne tient pas debout. Comme une femme lapidée. Ça ne tient pas debout. À quatre pattes sur un tapis. Ça ne tient pas debout. Comme toutes les bondieuseries.
Voilà. Frédéric Fromet, voilà. Merci. Frédéric, vous êtes toujours Charlie. On vient de se rendre compte. Oui.
Et donc, on va barrer dans la liste des invités Chris. Ça ne viendra donc pas pour cette émission, mais on la salue.
Merci Frédéric Fromet. Merci. Strasbourg, nous y serons, les amis. Nous y serons mardi.
Et oui.
En direct. Hein, on va vous aider à leur lancer ce marché de Noël parce que bon. Hein,
on va aller acheter des ponchos.
Bien sûr, on y sera. Donc, réservé, on vous donnera toutes les informations lundi. Mais ouais. Voilà, de 17h à 18h, sacherez que Strasbourg, on y sera. Ravie d'y aller. Ouais. Merci beaucoup Pietra et Julien Desrouaux d'avoir passé cette heure avec nous. C'était passionnant de parler avec vous. Lorenzaccio, votre spectacle, on peut dire, tout à fait complet, d'après l'œuvre d'Alfred de Musset, la danse, le texte. Vous êtes en tournée dans toute la France. Vous serez aussi à la salle Pleyel du 1er au 10 février, le 5 mars à Nantes par exemple, le 30 mars à Marseille au Silo. Donc on peut dire aussi création musicale, Yannel Kenel, la conception visuelle et scénographique 3D, car il y en a Gaël Perrin, dramaturgie Daniel Mesguich, les costumes Sylvaine Collin, création lumière, vous-même Pietra avec Damien Chavant. Voilà, j'espère qu'on a été complet et on a hâte de découvrir Lorenzaccio. Oh, il est déjà l'heure. Merci Hélène Bisio, c'est la première fois qu'elle réalise cette émission
avec
nous.
Elle a bien fait ça.
Ouais.